Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Odo Radio, Odo Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Et nous sommes présents, toute la rédaction des informations locales et culturelles est présente, comme chaque jour du lundi au vendredi, midi pour le direct, 15h et 18h pour les rediffusions, 91.3 FM pour nous suivre dans toute la Gironde et grâce au DAB+ dans toute la métropole bordelaise. Vous pouvez nous suivre également via notre site odoradio.fr partout sur le globe avec des infos complémentaires à notre journal, les reportages de la rédaction et c'est sur notre site que vous pouvez retrouver les replays de toutes nos émissions. Et pour ouvrir ce journal d'informations locales et culturelles en ce jeudi 20 et vendredi 21 août 2026, c'est le moment de votre Flash Info. La ville de Bassens organise la fête de clôture de ses animations d'été ce jeudi 26 août 2026. Le rendez-vous est fixé à l'espace Michel Serres. Le programme débute dans l'après-midi de 14h avec la radio des défis des sciences de la musique jusqu'à 19h. La journée se poursuivra par un repas partagé et un concert de reprises folk, blues et jazz assuré par le duo Tessa Roger et Danny Ducasse. À cette occasion, l'équipe d'Odo Radio délocalisera ses studios à l'espace Michel Serres pour couvrir l'événement en direct avec un journal à midi et une émission spéciale à 17h. Rendez-vous donc jeudi prochain 27 août sur notre antenne ou à Bassens. Prêt gratuit de vélo électrique à Artigues-près-Bordeaux. La municipalité d'Artigues-près-Bordeaux met à disposition des habitants une flotte de 5 vélos assistance électrique. Ce prêt gratuit s'étalera du 6 septembre au 29 octobre 2026. La mesure vise à tester les déplacements domicile-travail en vélo. Les personnes intéressées doivent constituer leur dossier de demande avant le vendredi 28 août sur le site internet de la ville www.artigues-près-bordeaux.fr. Et pour finir, un deuxième frigo zéro gaspillage s'installe à Senon. La lutte contre le gaspillage et l'entraide se renforcent dans la commune. Un nouveau frigo zéro gaspillage vient d'être inauguré rue Arago, juste à côté de l'école Camille Maumet. Le principe de cet équipement est très simple. Il est accessible en libre service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il comprend un réfrigérateur pour les produits frais, mais aussi un garde-manger pour les denrées sèches et les produits d'hygiène. Chacun peut y déposer des dons ou venir se servir gratuitement et à anonymement. Ce deuxième frigo, après celui de la rue Camille Pelletan, permet notamment de récupérer et de valoriser les repas non servis de la restauration scolaire. Une belle initiative solidaire gérée au quotidien par les équipes de la ville et de l'association Crépac pour garantir la sécurité alimentaire. Et pour clôturer ces brèves d'infos, sachez que lundi, vous retrouverez votre journal d'information locale et culturelle habituel avec des invités inédits et animés par Joël. Voilà pour votre Flash Info. Et tout de suite, nous allons retrouver un entretien avec Jean-Noël Piton, alias Yfon de la Tuile, que nous avions reçu dans nos studios, auteur d'une Algérie vécue au cœur d'un appelé, aux éditions Baudelaire, dans un récit bouleversant. Jean-Noël Piton, alias Yfon de la Tuile, retrace avec sensibilité les instants marquants de sa vie d'appelé en Algérie. Par touche impressionniste, il évoque ses révoltes silencieuses, ses petits actes de résistance face à l'indicible, la torture. Porté par la mémoire de ses camarades meurtris, il nous livre un témoignage pudique, lucide, empreint de fraternité. À travers les rencontres inattendues d'après-guerre, surgit l'espoir, fragile mais tenace, d'une réconciliation possible. Entretien que l'on retrouve maintenant.
Jean-Noël Piton, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Ça c'est votre nom à l'état civil et je sais que sur la droite, beaucoup de monde vous connaît sur ce nom-là. Mais là, comme c'est l'auteur que je reçois, donc Yfon de la Tuile.
Oui, Yfon de la Tuile. Yfon, c'est l'anagramme de Piton.
Tout ça j'ai bien compris, j'ai pas pris la...
Et de la Tuile, le lieu dit où j'habite, c'est les Tuileries.
Ah, et donc ce n'était pas totalement anodin, là.
C'est pas anodin,
ça a été réfléchi.
Le Yfon de la Tuile, c'est un petit peu la même chose que Yoyote de la Touffe ou Yfon de la Calebasse. C'est-à-dire que dans mon esprit, je peux dire des choses intéressantes, sérieuses, mais surtout, je n'ai pas l'intention de me prendre au sérieux.
Bon, voilà, mais ça, je vous avais posé la question parce que je vois sur certains communiqués, on donne à la fois votre nom à l'état civil et votre nom d'auteur. C'est pour ça que je ne voulais pas faire de gaffe, mais tout va bien.
Oui,
donc,
oui.
Je ne sais plus si je dois vous appeler Jean-Noël ou Yfon. Alors, on va parler de votre ouvrage, Une Algérie vécue au cœur d'un appelé. Là, comme on a un petit peu de temps, on va profiter du temps et avant que vous en parliez de manière un petit peu plus précise. Vous avez écrit d'autres ouvrages, j'ai pas eu le temps de faire l'investigation, puis dans l'échange qu'on a eu, Richard, en amont, on a pu parler de plein de choses. Donc,
oui, avant de ce petit bouquin...
Pourquoi ce petit bouquin? Ce grand ouvrage. Attention.
Je me suis mis à écrire des petites histoires qu'on appelle les petites légendes d'Yffon de la Tuile. C'est-à-dire que tous les ans, comme beaucoup de personnes, j'envoyais des vœux, nous envoyions des vœux aux enfants, aux familles, aux amis, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oh, ça vaut pas le coup, on dit gna gna gna, toujours la même chose, bonne année, bonne santé. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire des petites légendes. Et ben, depuis, j'en suis prisonnier, à savoir que tous les ans, mais j'écris à d'autres occasions aussi, tous les ans, on attend la petite légende du premier de l'an. Je peux même vous dire le titre de la prochaine légende.
Ah ben oui, ben avec plaisir, oui.
Ça sera la légende des petites grenouilles qui avaient une reine et qui n'en ont plus.
Bon, tout un programme. Je n'hésiterai pas à vous inviter, parce que là, on avait échangé, vous étiez même venu, vous connaissez le coin, on a des amis communs, on fait un petit coucou à Guy Liévin et tant d'autres...
Bien sûr.
Tant d'autres personnes, on le voyait, je n'avais pas toute l'info, mais ça sert à ça aussi, là, les radios de proximité, donc on en reparlera. Là, on va se replonger, voilà, quelques années en arrière, alors je ne sais pas s'il faut employer le mot de conflit, guerre, parce que les mots, on leur importance. Oui. Et même quand je suis allé chercher un petit peu, voilà, chacun met les mots qu'il veut, donc 1954-1962, donc on va se projeter quelques années en avant. Donc là, vous étiez appelé donc, pour l'armée française.
Ce qu'il faut bien dire au départ, c'est que tout jeune qui avait entre 18 et 21 ans, bon, naturellement, il ne se posait même pas la question, il allait faire son service militaire. Et au moment où je l'ai fait, où je devais le faire, c'était en 1955. Et là, comme j'avais à continuer mes études, je ne suis parti qu'un an après en faisant la préparation militaire. Et donc, je suis parti pour mon service militaire en 56 en Algérie. Et à ce moment-là, le service militaire était devenu une mission d'apaisement, je ne sais pas comment appeler, mais on appelait ça, à ce moment-là, les événements d'Algérie, quoi.
Oui, sur les mots, justement. Oui, voilà. C'est pour ça que c'est bien de remettre dans le contexte. Alors oui. Déjà, on sortait, enfin, je dis on, voilà, je n'ai pas connu cette période, 39-45, oui. Donc quelques années, le service militaire. Voilà. Il était de combien d'années? On en a un petit peu changé.
Avant les événements d'Algérie, on faisait...
Donc entre 45 et 54, voilà, à 1954.
On faisait 12 mois, quoi. Et ça a été prolongé, d'abord... jusqu'à 16 mois et ensuite jusqu'à 18 mois. Et au moment où je suis parti, je devais faire 18 mois. Mais progressivement, ça a encore été augmenté en fonction de l'évolution de ce qui se passait en Algérie. Et j'ai fait, comme beaucoup, 28 mois. Et quand je suis parti, justement, pour faire mes 18 mois, j'ai rencontré des anciens qui avaient fait leur service militaire, qui, eux, n'étaient pas des appelés, mais des rappelés, et qui, eux, ont fait 4 mois supplémentaires, ils ont fait 32, enfin, plus de 4 mois supplémentaires, ils ont fait 32 mois au total, quoi.
Voilà, parce que remettre avec le conflit, c'est vrai que après des années plus tard, hein, comme on a un petit peu changé, voilà, moi je fais partie des contingents qui faisaient 12 mois et ça a été supprimé.
Oui, oui.
Donc ça, je vais pas ouvrir toutes les parenthèses de savoir est-ce que ça serait bien de remettre au goût du jour. Mais vous, à cette époque-là, donc vous poursuiviez des études, si oui. On met sans être indiscret, quel type d'études?
Ah ben, des études.
Sauf si c'est indiscret.
Hein. Des études de lettres.
Bon, déjà la passion des mots. De la littérature.
Voilà, tout à fait. Et donc, quand je suis parti, bon, comme tout appelé, enfin, toute personne, tout jeune qui devait faire son service militaire, bon, avait une visite médicale. Et ma mère m'avait dit, j'espère que tu vas dire au médecin que tu as un souffle au cœur. Et j'ai répondu bien gentiment, oui, maman, avec l'intention formelle de ne rien dire, quoi.
Après, il faut expliquer pourquoi, même si ça tombe sous le sens. Voilà, ben, pour les parents, on n'a pas envie de voir ses enfants partir.
Exactement, elle se disait peut-être qu'il va être réformé.
Parce qu'il y a à la fois l'honneur, la patrie, etc. Mais le cœur d'un parent. Voilà. Mais vous étiez dans quel état d'esprit, vous, du coup?
Alors, moi, j'étais...
Vu que vous n'avez pas joué la carte, entre guillemets, du souffle au cœur.
Non, absolument pas. Je ne voulais pas être privilégié. Bon. Exactement. Et donc, j'ai pas eu besoin de dire que j'avais un souffle au cœur, parce que à la visite même, le médecin, à peine m'avait-il ausculté, qui m'avait dit, monsieur, vous avez un souffle au cœur.
Ah, parce que vous en avez vraiment, c'est ça?
Oui, j'en avais.
Ah, d'accord, non, je pensais que c'était...
Non.
C'est pas pour entrer dans l'intimité,
voilà. Non, c'était pas une invention, et ça a
été... Non, mais façon de parler, parce que sans parler, après, des années plus tard, on n'était plus dans des moments de conflit, combien on voulait se faire réformer. Ça permet de mieux comprendre,
bien sûr. Dans mon esprit, j'avais pas une conscience politique énorme, mais j'avais quand même des convictions. D'abord, je voulais pas être un privilégié. Et deux, si j'allais là-bas, j'avais la conscience quand même importante qu'il me semblait normal que tout pays qui le désirait puisse avoir son indépendance. Et ça a été tel que quand j'ai pris le bateau à Philippeville, ce qu'ils appellent Skida maintenant, je m'étais dit, je sortirai du bateau le dernier. Et dans mon esprit, sortir du bateau le dernier, c'était garder ma liberté. Et quand je suis arrivé sur les quais et qu'il y avait un troufion, comme on dit vulgairement...
Oui, oui, c'est le soldat de... qui n'a pas d'œil. Mais c'est bien, je vais essayer de traduire chaque fois que je pourrais.
De distribuer les paquetages. Mm-hmm. Et il arrive et il me dit, je te donne ton paquetage, mais tu n'as pas de peau. Je ne vais pas pouvoir te donner de fusil, j'en ai plus. Et je lui ai répondu, c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Voilà. Ça a été mon premier pas dans ce long temps passé en Algérie. Quoi.
Voilà, parce
et ça, je crois que ça décrit bien mon état d'esprit à ce moment-là.
Oui, là j'entends bien, parce que là j'ai quelques infos, on va l'aborder, mais ça permet de remettre sur le contexte historique, parce que effectivement partir, quitter son pays, on a toutes les réminiscences de la Deuxième Guerre mondiale.
J'ajouterais bien quelque chose, parce que
oui, ça, je vous en prie, bien sûr.
Une remarque générale, je me suis dit, on était jeunes, on avait peu de conscience politique, on faisait son service militaire normalement, et je pense que pour beaucoup, au-delà des opinions qu'ils pouvaient avoir, jeunes, partir en Algérie, c'était aller un petit peu vers l'inconnu et tout ça, et qu'il n'y avait pas forcément de rapport avec la réalité qu'on allait rencontrer. Quoi.
Sur le terrain. Et après, je présume que, voilà, on ne va pas ouvrir toutes les fenêtres, mais je ne sais pas si on avait toujours la vérité de ce qui se passait. Moi, je n'ai pas connu cette époque, mais comme tout le monde, on voyait dans les cinémas de quartier, il y avait toujours les actualités. Et puis, voilà, il peut y avoir les raisons d'État. On peut montrer ce qu'on a envie de montrer aussi. Donc, c'est pour ça que pour les parents, il y a une inquiétude. Oui. C'est quitter. Souvent, c'est la première fois qu'on quitte sa famille, son pays. C'est pour ça, c'est bien de remettre dans le contexte.
Mais si au tout départ, les seules informations qu'on avait, c'était les embuscades. Et donc, le risque de voir son enfant...
ça c'est normal pour les parents et puis pour soi, parce que je pense que c'est pas aussi évident. Ça se passait comment à ce moment-là d'ailleurs, parce que quand on fait son service, j'allais dire entre guillemets, à un moment donné normal, on sait qu'on va être convoqué à tel âge. Il y a plusieurs étapes. Moi j'ai connu l'époque, certains s'en rappellent, des 3 jours, etc. Donc à cette époque-là, quand on partait surtout sur un lieu de conflit, c'était un petit peu la même chose. On savait que à telle date, tel âge, on avait déjà l'information, il y avait un suivi de la part des autorités qui disaient attention, Jean-Noël,
on était
à telle
par
date.
Classe. Moi j'étais de la classe 55, 1A, puisqu'il y avait 1A, 1B, 1C. Voilà. Mais je ne suis parti qu'avec la 56, 2A, pour justement finir.
Par rapport
aux études.
Voilà. Là vous avez pu du coup finir vos études et puis partir après.
J'en ai fait une partie et puis après. Mais les plus importantes étaient faites déjà. Quoi.
Bon.
Et quand je suis parti avec des jeunes, justement, vous parliez de la formation, c'est-à-dire que quand on rentrait à l'armée, on avait deux mois de formation. Et donc, moi, j'en avais quasiment pas fait de formation, parce que j'ai fait, justement, qu'on a considéré que j'avais un souffle au cœur, j'ai eu une visite complémentaire.
Et donc, on a tenu compte du coup de
voilà,
du souffle enfin, au cœur, d'accord. Que, là, on vous a pas réformé.
Oui,
mais,
enfin, là, il y a une petite anecdote.
Bon. Alors, mais je l'attends, vous en rigolez. Avec le recul, bien sûr. Donc,
à savoir
alors.
Que on a été renvoyé une quinzaine à Rennes pour une contre-visite. La contre-visite a été très rapide et on est revenu à cette caserne-là. Et pendant un mois, personne ne s'est occupé de nous. Et on s'est bien gardé de signifier notre séjour là. Et c'est qu'au bout d'un mois qu'on s'est aperçu que on n'avait pas été affecté. Donc on est reparti les uns et les autres à droite à gauche. Mais enfin, ce serait peut-être un petit peu long.
Oui, il y aurait certainement. Mais le but aussi, c'est de pouvoir mettre en avant.
Donc,
on rappelle votre ouvrage, Une Algérie vécue au cœur non appelé. Ça permet de parler du livre, mais de votre histoire. Hein. En même temps, c'est, c'est lié. Alors quand vous arrivez en Algérie, c'est quoi les premières émotions? Parce que là, en bateau, la traversée. Combien de temps on met pour à l'époque
À l'époque, enfin là, quand moi j'ai traversé, la première chose, au-delà de la petite anecdote dont je parlais tout à l'heure, c'est les parfums, l'odeur sur les quais.
L'odorat, les couleurs, les visions certainement.
Les parfums que moi j'aurais appelé envoûtants. Mmh. Ça donnait envie, si vous voulez.
Bon.
Et puis on est parti dans des trains. De wagons, avec des wagons à bestiaux pour aller justement en Kabylie. Et on a été mis tout de suite dans le bain puisque on s'est arrêté du côté des hauts plateaux là, de Sétif, Borges, Bouar et Ridge parce que la voie ferrée avait été... y avait eu des dégâts sur la voie ferrée.
Donc, oui, c'est une zone de conflit, donc voilà. On l'a rappelé. Donc,
on s'est arrêté en plein désert, quasiment, quoi, et on a mangé des rations de la guerre 14-18.
Ah bon, elles n'étaient pas périmées?
Non, enfin, c'était bon. Ce genre de rations. Bon, tout de suite, on nous a, le lendemain, fallu attendre, ils sont organisés, pour qu'on ne soit plus transporté en train, mais par des camions avec des T6, les avions qui nous ont survolé pendant tout le voyage jusqu'à côté de Bougie, quoi. Et donc là, on était dans le bain, effectivement, de la guerre, quoi, enfin, d'une certaine manière, puisque des embuscades, des choses comme ça, quoi.
Et là, vous disiez que vous n'avez pas forcément de conscience politique et autre, mais au travers de vos propos, vous pouvez vous dire, mais voilà, les Algériens, ils défendent leur pays. Quand on est soldat, en plus, c'est difficile de ne pas répondre aux ordres, parce qu'on le voit, il y a eu des actes, certains ont été fusillés, s'ils n'acceptaient pas. Donc, je pense que quand on est jeune et qu'on a sa carrière, parce que je ne sais pas si vous, au travers de vos études littéraires, vous saviez quelle vocation vous aviez à ce moment-là, parce qu'on peut poursuivre des études et puis pas savoir si on va devenir professeur des écoles ou autre. Donc il faut vraiment remettre dans le contexte. On est jeune, on a la vie devant soi, les études, et là on se retrouve sur une zone avec un beau treillis. Mmh.
Mais ce qu'il y a, c'est que là où on arrivait, il y avait une population qui était là. Et la population et les armées qui se battaient pour l'indépendance de l'Algérie, c'était deux réalités différentes, quoi. Parce que là où j'étais justement, et ça fait partie de ce que j'ai vécu là-bas, des liens entre les habitants et nous. Il y avait une promiscuité et qui était faite d'échanges. Pour vous donner un exemple, moi j'étais dans la section de ravitaillement, et juste à côté de là où on était, il y avait une meshta où il y avait une famille, et pendant longtemps, on échangeait. C'est-à-dire que, comme on avait du ravitaillement, on leur donnait à manger. Et eux, ils nous ramenaient la vaisselle toute propre et aussi avec des œufs de leur poule.
De beaux échanges de proximité. Hein.
Voilà.
C'est-à-dire que là, on est sur un conflit. Et... Vous avez une tenue militaire, on le rappelle. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir comme cela des...
Et alors, je me souviens encore du nom très poétique, du nom kabyle des œufs, c'était Timlaline.
Bon, vous m'en mettez une douzaine, s'il vous plaît. donc là, c'est là que ça veille un petit peu néanmoins les consciences de se dire, bon, mais voilà, nous, on est sur une zone de conflit. Après, malheureusement, il y a toujours les victimes collatérales. Comme on dit, donc à la fois des liens avec les populations, on a des ordres quand on est militaire, bien sûr. Donc c'est là qu'il y a une réflexion qui se fait néanmoins en se demandant peut-être tout simplement qu'est-ce qu'on fait là. Est-ce qu'il pourrait y avoir moyen de régler autre que par un conflit armé? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre tête, parce que là on voit des bons rapports, des échanges du quotidien.
Oui, alors là, cette question de savoir si on pouvait faire autrement. Ça ne se posait pas, mais c'était plus une opinion qu'on avait.
Bien sûr, mais c'est là que je voulais en venir. Hein. Mais, parce que là, quand il y a des ordres, il faut les respecter.
Dans la situation où j'étais, étant donné que j'étais dans un bataillon de chasseurs alpins, il y a un régiment de chasseurs alpins, il y avait 5 bataillons, et moi j'étais dans le bataillon du commandement et des services. Donc, ma vie était, et celle de mes camarades, était totalement différente des bataillons qui étaient, eux, sur le terrain, des bataillons de combat, quoi. Et donc, la situation directe de combat, moi, j'ai pas connu ça, hein, directement. Je l'ai connu indirectement par... Des autres camarades qui étaient dans les bataillons combattants.
Oui, que vous pouvez vous croiser. Là, vous suivez l'actualité, parce qu'on met dans le contexte.
Oui.
Parce que là, de nos jours, évidemment, on a des smartphones, on est reliés, mais là, il faut remettre. Vous êtes.
On a été presque tout de suite dans le bain, puisque.
Est-ce qu'on arrive à avoir une information? Parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas la personne la plus pertinente pour parler, bien sûr, de ce sujet-là, mais comme tout le monde, j'ai une conscience, etc. Quand on est sur une zone de conflit, comme vous la décrivez, même si vous la décrivez en quelques mots, ça montre quand même bien le lien avec les autochtones, les habitants. Mais là, comment comment elles venaient à vous, les infos? Parce que souvent, les ordres militaires, ils arrivent, donc ça, c'est la hiérarchie. Donc, si vous devez remplir une mission ou être déplacé, est-ce que vous avez des infos sur le conflit? Qu'est-ce qu'on en pensait en France? Après, il y avait certainement du courrier de la famille ou pas.
C'est plus les événements que j'ai vécu qui interrogeaient. Bon, il y en a un premier, effectivement. Je m'en souviens encore aujourd'hui. On était au bord de la Soumam. Et donc, à flanc de montagne, au-dessus, il y avait un bataillon qui était le deuxième bataillon de chasseurs alpins. Et ils sont tombés dans une embuscade. Et moi, j'ai le souvenir de voir arriver un camion qui avait été, mitraillé et tout ça par les Fellaga. Et de voir le résultat dans le camion, les seules choses qu'il y avait, c'était des morceaux de chair un peu partout sur les ridelles du camion. Et ça vous marque, même si vous n'êtes pas directement lié, ça
nous amène à une réalité.
Et alors les souvenirs que j'ai justement sur les combats, et c'est plus une réflexion que je me suis faite. Après, sur les comportements des camarades qui se trouvaient dans des situations comme ça, selon les ordres qu'ils recevaient, eh bien, ils pouvaient devenir comme des bêtes, quoi. Il suffisait qu'ils aient un officier ou un sous-officier, surtout, qui leur donne des ordres. Allez, hein, mon vieux, on va dans le village voisin et vous faites ce que vous voulez. Et à ce moment-là, on a des atrocités absolues. Et ça m'a permis, moi, je mets au défi des gens qui, de loin comme ça, jugent, se trouver dans des situations de violence telles qu'ils voient des camarades qui sont restés sur le flanc, complètement déchiquetés. Il suffit que, pour qu'ils réagissent vraiment comme des hommes humains, il faut une sacrée culture et un sacré recul pour ne pas sombrer dans une violence absolument incontrôlée.
C'est important ce que vous dites, parce que quand on le vit, c'est à la fois, on est sur une zone de conflit, c'est la peur, on a peur pour son intégrité, les camarades qui reviennent entre les ornes. Je pense que soit on doit se demander, qu'est-ce qu'on fait là? En plus, vu le contexte de la population, on peut se demander, comme toute guerre, tout conflit, est-ce que ça fait sens, etc. Et juste pour faire le lien, parce que là, je vois qu'on va être là jusqu'à 18h, évidemment, je pense que les anecdotes, certainement d'autres, mais juste le lien une Algérie vécue au cœur d'un appelé, votre ouvrage, là vous étiez sur des études littéraires, mais à ce moment-là, est-ce que vous griffonnez, vous écrivez, ou l'idée du livre est venue bien après sur le...
Absolument pas.
Sur la temporalité, mais donc...
Ce que je pense aussi, enfin, sur lequel j'ai réagi, plus proche, moi, j'ai été proche de la réalité de la torture.
Oui, ça je...
Et là...
Vous en parlez d'ailleurs dans le petit extrait. C'est une fois de plus la réalité avec des ordres donnés.
Et là, j'ai réagi. Là, vraiment, j'ai posé des actes qui ont été importants parce que à un moment donné, on m'a demandé de m'occuper des prisonniers parce qu'il y avait une petite prison là où on était.
En plus de vos missions de service.
À flanc de colline, et je devais aller chercher des prisonniers qui, qu'on utilisait pour des tâches. Et un jour, je me suis trouvé nez à nez avec la torture. Et j'ai réagi fortement, et j'ai. Comme les prisonniers étaient là, ils m'ont fait. Ils m'ont montré dans la pièce où j'étais une trappe. Je leur ai demandé d'ouvrir et il sortit un prisonnier qui était mais boursouflé à force de morsures de chiens policiers. Et j'ai pris la décision de l'emmener à l'infirmerie. Et j'ai téléphoné à l'officier de renseignement et pour lui dire que j'avais été à l'infirmerie avec ce prisonnier, que s'il voulait le remettre à la trappe, qu'il le fasse lui-même. Ouais, un énervement comme ça. Et après...
Il faut avoir le courage de le faire, ça.
Oui, ou l'inconscience, parce que c'est vrai que quand on est dans... je ne sais pas.
Mais... le côté humain. On sait qu'on est là, on n'a pas le choix, entre guillemets.
Et d'autres éléments, je ne vais pas être plus long là-dessus.
C'est bien d'avoir des anecdotes.
À d'autres reprises, j'ai trouvé des pièces entières où il y avait des petites cages, où il y avait trois hommes dans ces cages-là. Ils ne pouvaient pas tenir debout. Et là aussi, je les ai fait tous sortir dans la cour de la prison. Et j'ai été à l'infirmerie pour chercher tous, parce qu'ils étaient couverts de pustules. Et je suis allé à l'infirmerie pour demander tout ce qu'il me fallait pour les soigner. Et je suis revenu et je leur ai dit je parlais vulgairement, de se mettre à poil et de se soigner. Ils l'ont fait et après j'ai tout refermé et j'ai dit pareil à l'officier de renseignement, si vous voulez les remettre dans vos cages, vous le faites vous-même, mais pas moi. Ça a été, disons, les réactions que j'ai eues à ce moment-là et qui me, non seulement c'était une opinion, mais je prenais
position. Mais bien sûr, mais ça c'est le côté humain. Après, voilà, je ne sais pas si vous avez eu des sanctions après, parce que c'est aller à l'encontre d'ordre, etc. Alors évidemment, c'est la cruauté, toutes les horreurs, bien sûr, d'un conflit. Alors c'est facile d'en parler en dehors, mais quand on le vit, il faut agir. Hein. C'est pas tout le monde qui peut avoir, et là vous l'avez bien dit, ce courage ou de l'inconscience. Chacun mettra le mot, mais vous l'avez vécu comme cela.
Oui. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai aucune réaction, aucune punition. Mais ce qui m'a surpris aussi, c'est que j'ai su après que dans la prison, toutes les cages avaient été supprimées. Et ça ne pouvait que me faire plaisir.
Bien, alors le lien avec le... Enfin bien, ça c'est l'intonation, mais voilà, il faut remettre une fois de plus dans le contexte. Alors par rapport à votre ouvrage, parce que là je pense que vous aurez, c'est plus que des anecdotes, c'est vraiment des souvenirs, c'est du vécu. Oui. D'ailleurs ça reste toujours, parce que ça vous n'en parlez pas forcément régulièrement, hein, c'est quelques années, mais ça vous suit, ça vous poursuit. Je ne sais pas si des fois on en fait même des années après des cauchemars ou autre, parce que d'avoir, même si vous n'étiez pas forcément sur le conflit, vous étiez sur les zones de conflit, vous n'étiez pas forcément, je ne sais pas comment on peut qualifier.
Oui, d'une certaine manière, comme tous les appelés, on était sur les zones de conflit, mais tellement différentes d'un jour à l'autre, est tellement différente selon les endroits où on se trouvait en Algérie que c'est difficile à définir. Mais à ce jour, si vous voulez, je suis plus dans... Je ne peux pas dire que j'ai des rêves...
Ça peut arriver, ça, des années après, parce que quand on vit certaines situations voilà, qui sortent de l'ordinaire, c'est pas évident de voir ce que vous avez vu, vivre ce que vous avez vécu, etc.
C'est plus traduit par des convictions absolues. Qu'il faut absolument...
On n'en revient pas indemne. Hein, donc ça, justement, j'aimerais bien qu'on garde quelques instants sur l'après, façon de parler. Mais par rapport à votre ouvrage, donc du coup, vous l'avez écrit à quel moment? Donc là, vous êtes en Algérie, donc 1956, vous m'avez dit.
J'ai mis énormément de temps à écrire quelque chose.
Et pourquoi vous l'avez écrit? C'est histoire de garder, c'est une part de votre histoire au sein de la grande histoire, mais les générations futures.
Je l'ai écrit qu'il y a un an et demi.
Ah, c'est bon, je pensais...
Non.
Et là, c'était quoi? C'était un besoin de coucher sur le papier des mots? Vous écrivez quand même ou...
Ça s'est fait de la manière suivante. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ou quelqu'un plutôt, Yamina Benguigui, et qui avait fait un film sur, qui s'appelle Le plafond de verre, et qui raconte comment les jeunes originaires d'Algérie, et qui sont en France, disons, des Maghrébins qui sont devenus français, faisant des études supérieures, ont du mal justement à franchir le cap des responsabilités dans l'entreprise. Et donc, elle était venue présenter ce film-là. Puis, j'ai discuté avec elle. Je lui ai raconté un petit peu ce que j'avais vécu.
Votre parcours, oui.
Et c'est elle qui m'a dit, mais monsieur, il faut écrire. C'est un devoir de mémoire. Et c'est à partir de là que je me suis dit, je vais écrire.
Alors ça se passe comment dans ces cas-là? Parce que là, il y a tous les souvenirs, faut écrire, je ne sais pas si on garde des... faut remettre de plus dans le contexte, je ne sais pas si vous avez des photos,
des
lettres, des archives.
Oui. Et justement, j'ai écrit ça il y a un an et demi à peu près, quoi. Et vous me posez la question de savoir si ça m'avait marqué, et ça me marquait encore. J'ai une réponse, d'une certaine manière, c'est que l'année dernière, j'ai fait une crise de glycémie, absolument pas prévue, et ma femme m'a dit, je sais pourquoi. C'est que je sais que souvent, justement, les crises de glycémie sont provoquées par du stress très important. Et comme je sortais de 3 mois d'écriture, elle a attribué ce qui m'était arrivé à ce fait justement d'avoir écrit ce livre-là qui, à mon insu, m'a secoué sérieusement. Voilà.
Là, il est paru donc aux éditions Baudelaire.
Baudelaire, voilà. Et
comment vous avez connu les éditions?
Alors là, c'est aussi.
Parce que souvent, il y a des personnes autour de moi qui ont des envies d'écrire. Ils savent pas. Bon, voilà, s'ils le font en compte d'auteur, aller frapper aux portes de tous les éditeurs. Donc ça s'est passé comment?
Alors ben, ça s'est passé de la manière suivante, c'est que quand au moment où j'ai décidé, j'ai cherché des éditeurs
potentiels.
Alors, j'en connaissais deux, mais justement celui où j'avais écrit mes petites légendes, là, qui était un éditeur local.
Tout à fait, oui.
Mais je connaissais sa ligne éditoriale, je me suis dit non, ça ne l'intéressera pas.
Donc, vous n'avez même pas posé la question.
Je lui ai posé la question.
Quand même, oui.
Mais je continuais à chercher sur l'ordinateur, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû appuyer sur une touche sans faire attention, et j'ai reçu un message des éditions Baudelaire, en me disant, cher monsieur, nous sommes intéressés par votre manuscrit. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est les éditions Baudelaire qui m'ont proposé que je leur envoie mon manuscrit. Ça s'est fait de cette façon-là.
Ça se fait après, naturellement. Donc, on voit le manuscrit tapé sur ordinateur.
Et puis, il y a eu une séance, des échanges.
Il y a quand même un petit moment où il faut qu'ils le lisent.
Il faut corriger tout ça.
Oui, après, ça, c'est les autres étapes.
Merci à vous. Oui. Et il est édité jusqu'en juillet indéfiniment. Publication indéfinie jusqu'en juillet 2027. Et aux éditions Baudelaire, et il est publié par Hachette. Voilà, ça a été fait, je dirais, comme aurait dit quelqu'un, à l'insu de mon plein gré.
Bon, voilà, il y a des expressions qu'on va passer. On va en dire quelques mots, bien sûr, on va dire comment on peut se procurer l'ouvrage, mais juste là, je voulais garder un petit espace. Voilà,
Vous me coupez si je suis bavard. Hein.
Non, mais bon, en même temps, il y aurait tellement de choses à dire, et puis moi, je ne suis pas forcément un spécialiste, mais voilà, ça fait partie de notre histoire, ça dépend des générations, bien sûr, mais ça fait quand même partie de la grande histoire, donc c'est bien d'avoir plus que des impressions, hein, des vécus. Vous avez quitté le sol algérien à quel moment, du coup?
Eh bien, je suis rentré en janvier 89. 59.
Là, il y a votre famille qui va se dire, oulala, Jean-Noël. 1959, donc le conflit
janvier 59,
est toujours là. C'est quoi? Donc, pour vous, c'est la fin du service obligatoire, c'est ça?
Oui.
Donc là, je ne sais pas si on vous avait posé la question à ce moment-là, si vous vouliez vous engager, je ne sais pas si c'était possible, rempiler, de prolonger.
Non.
Bon, donc là, terminé. Donc moi, sur mon service, hein, autre temps, autre époque, on a la fameuse qui, on fête ça. Vous, ça s'est passé comment, du coup? Donc ça y est, vous allez revenir voir vos proches, votre famille. C'est quoi l'émotion qui vous prend? C'est se dire, ben, c'est un gâchis, tout ce que j'ai vu, entre la torture, les morts de part et d'autre. On est à la fois content de sortir en vie de cette zone de conflit. C'est quoi les émotions qui passent dans votre tête à ce moment-là?
La première, est-ce qu'il faut le traduire comme une émotion? La première chose, c'est que j'ai mûri. Et j'ai mûri dans le sens où je me suis dit, la vie est compliquée, est complexe. Tant que tu la réduiras à des affirmations absolues, tu seras dans l'erreur. Et tant que tu regarderas la vie telle qu'elle est, tu seras sur le bon chemin. Ça a été un peu ça, la manière de me comporter ensuite, quoi.
Après, quand vous êtes revenu, du coup, vous avez repris vos études, si j'ai bien compris,
J'ai
terminé.
Et puis, j'ai continué mon chemin dans ce sens-là avec des élèves de lycée qui sont devenus, à ce moment-là, c'était la grande époque de l'objection de conscience. Et j'en ai effectivement soutenu, j'ai fait partie de leur comité de soutien
C'était un statut qu'on pouvait avoir, hein, objecteur de conscience quand on voulait pas faire son service parce qu'il y avait plusieurs cas de figure. Oui. Moi, j'ai côtoyé des personnes qui avaient un handicap et qui voulaient le cacher pour faire leur service. Mmh. Il y a ceux qui voulaient pas pour plein de raisons. Et l'objecteur de conscience, c'est encore à part.
Il y a eu dans les années 68, 69, 70. Qu'il y a eu pas mal d'objecteurs de conscience à ce moment-là.
Puis là, il faut remettre dans le contexte aussi.
Alors, oui, voilà, c'était un contexte particulier.
Mais 68 est passé par là.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'après-conflit, j'allais dire, parce que après 1962, bon, voilà, les fameux accords des Vions, etc. Bien. Là, vous suiviez du coup l'actualité, parce que je ne sais pas si vous avez des camarades ou des liens, et puis d'avoir vécu tout cela, vous suiviez un petit peu l'actualité avec votre conscience, du fait de ce vécu, etc.
Ah ben, c'est-à-dire que l'actualité, je l'ai vécue, puisque sur la photo du livre, il y a des enfants. Et en 80, je suis retourné en Algérie, dans les lieux où...
C'était un besoin, c'était important pour
oui,
vous de venir sur un lieu en théorie, du coup, apaisé, sur une zone que vous avez connue...
La façon, la manière dont j'avais vécu ce temps-là, j'y allais avec un désir qui n'était pas chargé.
Donc
disons.
Plus de 20 ans après, oui, 22 ans.
20 ans après, oui. Et à la faveur justement de la marraine de ma fille qui était coopérante à l'université d'Alger. Donc nous y sommes allés, et avec ma femme et puis la marraine. Et dans ce petit village où j'étais... J'avais emmené des photos d'enfants et j'ai trouvé, il y a un jeune qui est arrivé, devenu une vingtaine d'années, qui avait été à Lyon, et triomphant, il me dit « je vais sûrement en trouver un », il m'en a trouvé un. Et on a été le voir, il était très content de nous voir et tout ça, mais moi je ne connaissais que les prénoms des enfants. Et quand il m'a donné son nom, le nom des autres, parce que je lui ai dit « les autres, ils ne sont plus là, où sont-ils ?» Il me dit « ils sont en France, ils habitent où ? À Bordeaux, il va falloir me donner leur adresse ». Et quand il m'a donné leur adresse, il m'a donné le nom des enfants. Et quand j'ai vu le nom, je me suis rendu compte que 8 jours avant d'être là devant lui, j'étais avec l'un des enfants que eu en formation,
d'accord,
sans savoir que c'était lui. Et ça a été des moments très forts. Et depuis ce temps-là, on a des liens très forts. Et on va se retrouver d'ailleurs bientôt avec la maman... qui est encore vivante, qui a 94 ans, et qui est très méritoire d'avoir élevé ses 8 enfants, pratiquement presque toute seule.
Bon, l'histoire continue. Hein. Donc,
oui,
du coup, les liens, alors justement, quand je reçois un auteur, il y a toujours des questions qui reviennent. Est-ce qu'il peut y avoir une suite sur votre ouvrage, ou ça peut être, sans forcément parler de suite, de... une autre histoire,
oui, oui.
À partir de la grande histoire, oui. Une fois de plus, et puis votre petite histoire à vous,
oui,
personnelle,
oui.
Riche de rencontres, même des années plus tard.
Mais moi, si j'avais à émettre un souhait, c'est que la belle Algérie devienne la propriété des beaux Algériens.
Bon, ça pourrait faire un titre d'ouvrage. Alors juste, et on va en rester là, merci à Cassel, à la régie technique, mais là, voilà, c'est pas une interview, j'allais dire, lambda, et puis il y aurait tellement de d'autres anecdotes, d'autres impressions, etc. Donc là, votre ouvrage, on peut se le procurer où ? Parce que là, quand j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé facilement.
Ah oui, oui.
Donc il est référencé, donc il n'y a pas de problème.
Alors
si on veut se le procurer, il faut faire comment ?
Alors, pour se le procurer, il faut aller dans n'importe quelle librairie et vous l'avez sur commande 3 jours après, à peu près. Quoi.
Bon, sinon, par Internet,
par
directement
Internet,
près
alors,
de...
Il y a un point important, puisqu'on est à l'ère du numérique, il est numérisé aussi.
Oui, donc ça, c'est une autre manière aussi de...
C'est une manière aussi.
Bon.
Et bon, ben, là, je vous dis... en publication, édition illimitée, jusqu'en juillet 2027.
Bon, voilà. C'est bien pour les échéanciers. Voilà. Souvent, les auteurs se retrouvent dans des salons et autres. Ça a été le cas pour vous? C'est en projet?
Alors, j'y suis allé une première fois. C'est-à-dire que j'avais contacté, disons, les radios, le journal Sud-Ouest, la radio locale.
Bon, ça, c'est pour la médiatisation.
Locale, mais la radio FR3 et compagnie.
Oui, mais...
Mais pour l'instant... Personne ne m'a contacté.
Bon. Non, mais ça, c'est sur le côté média, j'allais dire communication. Oui. Là, vous nous connaissez un petit peu. Puis c'est vrai que l'autre fois, pour l'anecdote, vous étiez venu voir un spectacle de métropolitain juste...
Tout à fait,
et
oui.
Et puis, voilà, parce que c'est vrai que crois que vous nous aviez envoyé un mail.
Oui.
Moi, ça ne m'a pas marqué, mais quand vous êtes venu, vous avez eu de vive voix, outre les retrouvailles, entre guillemets, avec Guy Lévin. Voilà, mais ça, c'est pour le côté médiatisation. Mais là, avec les éditions Baudelaire ou vous, être présent sur un salon littéraire ou autre, ça vous l'avez fait? Ça pourrait être un exercice entre guillemets qui vous pourrait...
Moi, je suis toujours disponible. Bon.
Parce que ça, c'est prévu ou pas? Parce qu'évidemment, après,
il faut faire la démarche.
Quelles échéances, quel lieu, lieu peut être ouvert. Mais ça pourrait être dans une démarche pour vous de venir...
De le faire. Oui.
Parce qu'il y a l'ouvrage, puis après, il y a tout ce que vous pouvez
Pour le
narrer, diffuser, expliquer.
Pour dire un peu, faire mon devoir de mémoire.
Oui, mais c'est bien, ça permet de...
devoir de mémoire.
Bien sûr. Donc, on va rappeler donc une Algérie vécue au cœur d'un appelé. Donc là, Jean-Noël Piton, alias, les deux, ils font de la tuile. Donc, on peut se le procurer. Si vous allez sur Internet, nous, on va repartager, bien sûr. Alors, tout à l'heure, j'ai glissé le fait, est-ce qu'il pourrait y avoir une suite directe ou indirecte? Oui, non?
Je sais pas.
Après, c'est pas un interrogatoire.
Je me suis pas posé la question.
Ça, vous écrivez.
Ça viendra peut-être.
Mais vous écrivez toujours néanmoins, d'avoir écrit cet ouvrage, et c'est pas la seule. Comment dire?
La seule petite.
Oui, à chaque fois, je cherche mes mots parce que entre les mots ouvrage, roman.
Là, c'était le premier. Voilà. Le premier ouvrage sur les petites légendes.
Donc ça perdure. Il y a des suites ou...
Alors, il y a une suite qui est...
Bon.
Je cherche justement à trouver l'éditeur, mais je vais passer à la Villa Valmont. À Lormont. Parce que je me pense qu'un illustrateur ou une illustratrice, ça pourrait l'intéresser, ce genre d'écrit.
Bon, donc aujourd'hui...
Et donc,
je suis
en train de faire le recueil des petites légendes du fond de la tuile.
Et là, c'était sorti, là, si je m'en compris, si vous cherchez un éditeur, c'est que...
Oui,
bon.
Qui soit pas un petit éditeur local, mais qui est plus un éventail géographique plus important. Voilà.
Donc là, vous cherchez donc graphiste ou...
Oui, enfin, parce que ça a été édité, je cherche, en 2016. Oui.
Bon. Ah oui. Je n'avais pas toutes ces infos. Vous voyez, vous avez bien fait de venir. Cet ouvrage, du coup, on peut se le procurer aussi facilement. Même s'il date de 2016.
En 2016, je pense que l'éditeur.
Il est épuisé, il y en a quelques-uns encore ou pas.
L'éditeur.
Vous
doit
en avez dans la maison, dans un coffre?
Si, j'en ai encore dans un coffre.
Ah oui, vous voyez, je rigolais en disant ça, mais.
S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent venir. Le trouver chez moi.
Bon, mais la suite, ça serait qu'il y ait une suite à petites légendes ou grandes légendes, pourquoi pas, faut pas employer.
C'est jamais bien le titre. La photo, c'est la photo de la Garonne.
Bon, là je vois avec le. Comment on appelle ça, Carolet, je sais plus comment.
Carolet, oui.
Bon. Voilà.
Et j'aime bien parce que c'est une ouverture vers l'inconnu.
Ah oui, mais la Garonne, quand on remonte, bien sûr, elle est également chargée d'histoire. Mais écoutez, Jean-Noël, alias Yves Fond de la Tuile, Jean-Noël Piton, en dernier mot, qu'est-ce que vous pourriez dire? Peut-être d'autres légendes arrivées sur l'écriture.
Le prochain petit livre, ça sera le recueil des petites légendes d'Yves Fond de la Tuile.
Bon.
Il y en aura, je pense que ça fera à peu près 200 pages.
Bon, voilà. Donc là, on écrit tous les jours ou on s'astreint à écrire. Là, il n'y a pas de secret ou de de manière de faire. C'est quand l'inspiration vient.
Voilà, c'est spontané, quoi. Voilà. Et Mais j'écris mes légendes, mes mémoires, parce que mon grand-père paternel a écrit ses mémoires, mon père a écrit ses mémoires, et moi, j'écris les miennes en ce moment. Voilà.
Bon, ça sera sous forme de... On peut écrire ses mémoires pour soi.
Oui.
Ses proches.
Voilà, c'est ça.
Et puis après, certains cherchent après, là, comme vous avez été édité, ça serait...
Autrement, j'ai un autre écrit, mais je ne sais pas comment...
Ah, mais voyez, plus l'interview avance, alors, dites-moi tout en vrac.
Ça sera plus un écrit sur ce qui me semble important dans la vie.
Bon.
Voilà, ce sera
un peu plus, de choses
un peu plus philosophique, disons.
Bon, très bien. Mais écoutez, ouais. Jean-Noël, hein, là, je vais reprendre votre nom à l'état civil. Eh bien, écoutez, merci pour ces quelques instants. Il y aurait tellement d'autres anecdotes, bien sûr, de faits historiques, etc. Et là, je vais le repartager sur les réseaux. Donc, une Algérie vécue au cœur d'un appelé, voilà, aux éditions Baudelaire.
Et merci de m'avoir invité.
Ouais, vous voyez, il y a eu un mail qui s'est perdu parce que des fois on reçoit tellement d'infos, c'est pas pour se défausser, pour noyer le poisson, comme dirait l'autre. Et là, vous avez bien fait, vous êtes venu frapper à la porte, vous avez eu en plus des visages connus à ce moment-là.
Oui, c'est vrai.
Et voilà, et on a
pu. Et là, ce que je vais entamer, c'est la tournée des médiathèques.
Bon. Très bien, écoutez, on va suivre ça de près. Prochain ouvrage, voilà, vous connaissez bien l'adresse de la radio, parce que sans raconter votre vie, voilà, vous êtes issu de la rue droite, quelqu'un de très actif. Voilà, bon, écoutez, merci beaucoup pour ces bons moments. Promis, on partage sur le réseau. Merci à Christelle, à la régie technique. On rediffusera ce journal demain. Et là, on fait un petit clin d'œil à toute l'équipe organisatrice des Odyssées. Ils sont venus nous rendre une petite visite la semaine dernière. On se quitte avec Boulevard Désert avant leur concert. Parc de Cantefresne à Ambès, ce sera le 29 août prochain. Encore merci à Jean-Noël Piton, alias Yfon de la Tuile. Et encore merci également à Christelle pour la régie technique. Allez, Boulevard Désert, on vous laisse avec les autres programmes d'Odo Radio.
Je pars quand le jour se lève, la tête, la valise remplie de rêves. Qui joue à pincer mon cœur quand s'éloigne trop vite le train vapeur. J'ai eu mille fois le courage de partir, mille et une fois l'envie de revenir. Quand je suis perdu, vous êtes ma boussole qui guide mes peines et qui me console. Cette route est peut-être la mienne, des allers-retours à l'infini. Il est temps, oui, que je revienne. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. Je n'oublie pas d'où je viens. Je rentre à la maison. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. C'est là que je suis bien. Je rentre à la maison. Personne ne m'a dit de partir. La dernière chose que je veux, c'est trahir. C'est vrai, je donne moins de nouvelles, mais j'oublie pas ce qu'on nomme les fidèles. Et j'imagine ce que font les amis, les discussions de ceux qui sont jamais partis. Et quand arrive l'orage, le déluge, vous êtes mon équipage, mon refuge. Cette route est peut-être la mienne, des allers-retours à l'infini. Il est temps, oui, que je revienne. C'est ici chez moi, et je rentre à la maison. Je n'oublie pas d'où je viens. Je rentre à la maison. C'est ici chez moi, et je rentre à la maison. C'est là que je suis bien. Je rentre à la maison. Encore un jour où je suis si loin. Encore un tour, un dernier train je crois. Encore un jour mais dès demain je reviens chez moi. Encore je cours soir et matin. Encore un tour, c'est un peu vain tout ça. Encore un jour et je reviens. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. J'oublie pas d'où je viens. Je rentre à la maison. C'est ici chez moi et je rentre à la maison.